qui n'avait pas cette épaisseur d'histoire pour en avoir la vérification. Si on fait aujourd'hui le bilan du minimum commun d'évidence spirituelle de la conscience universelle, de la conscience humaine en général, on sait très bien que l'on retrouve en fin de compte les évidences de la prophétie hébraïque. Je dis bien hébraïque. Parce qu'en milieu non-juif, lorsqu'on dit la Bible, on ne sous-entend pas forcément qu'il s'agit de la Bible hébraïque, qu'il s'agit des Hébreux, qu'il s'agit du peuple juif comme véhicule de cette parole. C'est pourquoi il est nécessaire de le préciser. Il n'y a d'autre Bible que la Bible hébraïque. Toutes les traductions de cette Bible hébraïque sont d'autres livres. C'est la manière dont d'autres hommes ont perçu de loin, plus ou moins loin, ce qui était dit à l'Hébreu. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas traduire, mais c'est quand c'est l'hébreu qui traduit dans une autre langue qu'il y a des chances que le contenu hébraïque est passé dans l'autre langue. Si c'est un homme d'une autre langue qui traduit de l'hébreu, il projette dans l'hébreu sa propre langue. C'est suffisamment clair. Eh bien, et ce moment donc de l'arrêt de la prophétie est d'autant plus important. Et en effet, il paraît à ce moment-là la lignée de la tradition philosophique. Or, si nous nous posions la question quel est l'objet de la pensée philosophique, la réponse, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est la recherche du fondement de l'idée d'homme. Face à la philosophie, et peut-être je dirais tout de suite que dans le sens strict, et il en résulte bien évidemment que la pensée philosophique met en parenthèse complète, évacue complètement l'éventualité d'une réalité prophétique. C'est-à-dire, le postulat même de la pensée philosophique, c'est que, bien entendu, il n'y a pas eu de révélation prophétique comme la Bible en parle, et que les prophètes étaient les philosophes. C'est-à-dire que c'est l'homme qui parle dans la parole du prophète. De ce point de vue-là, le prophète est athée. C'est-à-dire, pas forcément qu'il ne croit pas en l'idée de Dieu, mais il ne croit pas en l'idée d'un Dieu qui parle. Et donc, voilà cette première lignée, la tradition philosophique. À l'opposé de la tradition philosophique, vous avez la tradition théologique. Dans la pensée théologique, l'objet, c'est l'idée de Dieu. À quelles conditions l'idée de Dieu doit répondre pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle soit vraisemblable. Eh bien, ces deux préoccupations-là ne sont pas inconnues de la tradition kabbaliste. Le discours sur l'idée d'homme ou le discours sur l'idée de Dieu. Mais elles lui sont, à proprement parler, étrangères. En ce sens que sa perplexité propre commence au-delà. Le kabbaliste a déjà reçu l'évidence de vérité du discours biblique, qu'il est vrai que Dieu est et qu'il est vrai que l'homme existe. C'est-à-dire, il peut parler de cela. Il peut converser avec le philosophe ou avec le théologien. Mais cela n'est pas son propos, cela n'est pas sa perplexité propre. Nous verrons qu'il a un objet de perplexité beaucoup plus sérieux que cela, si j'ose dire. La pensée philosophique et la pensée théologique, corollairement, n'apparaissent que comme des pensées secondes. Elles apparaissent au moment de la cessation de la prophétie. Pour le kabbaliste, le postulat est très clair. Quelles que soient ses difficultés d'exister, l'homme existe. Et il ne considérera pas comme de l'ordre de la pensée adulte, d'être préoccupé des attendus de l'existence de l'homme. De la même manière, quelles que soient les difficultés de l'atteinte, par la médiation de la foi, puis de la connaissance de cette foi, pour le kabbaliste, il est clair que le discours biblique véhicule une réalité vécue, et par conséquent que Dieu est. C'est au-delà qu'il commence à se poser sa propre question. Sa question, c'est la possibilité de l'existence d'un monde. Ce qui fait problème pour la Kabbalah, ce n'est encore une fois pas tant Dieu que l'homme, mais la relation entre Dieu et l'homme. Comment est-il possible qu'un monde existe? Voilà la question de la Kabbalah. Et tout de suite, je corrigerai le vocabulaire, les kabbalistes vont parler des mondes. Ils vont nous dévoiler, ils vont nous expliquer que nous ne pouvons pas dire simplement le monde. Si nous disons que le monde, dans les limites étroites de notre perception du monde extérieur tel que nous le connaissons, nous n'avons aucune réponse à cette perplexité-là. Comment est-il possible qu'un monde existe? J'explique en tout cas la question elle-même. Si Dieu existe, il est tout. Il n'y a donc pas de place pour autre que lui. Et vous avez là une tentative de solution du problème mais qui en réalité l'esquive. C'est le panthéisme. Le panthéisme, c'est le postulat que le monde extérieur dans lequel nous sommes situés et ce que les théologiens nomment Dieu, c'est la même chose. Ça ne fait que esquiver le problème. Et je pense que ça a été une des tentations permanentes de l'esprit humain de tomber dans le panthéisme à cause précisément de cette difficulté préalable. Si Dieu est, il est tout, il est absolument. Il n'y a pas de place pour le monde. Et vous connaissez toutes ces philosophies ou ces mystiques de la confusion de ces deux substances, disons au niveau des essences, le monde et Dieu, que ce serait la même réalité. En tout cas, c'est une vision qui, en soi, est incompatible avec le discours biblique. Le discours biblique catégorise les substances, les essences, les réalités, Dieu, l'homme, le monde. Encore une fois, selon la Kabbalah, pour la pensée adulte, Dieu, c'est clair, celui qui fait être tout ce qui existe. L'homme, c'est clair, c'est moi qui pose la question. Le moi qui pose la question, le celui qui se pose la question de cette perplexité, c'est l'homme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la relation entre l'un et l'autre, et le lieu de cette relation, c'est le monde. Inversement d'ailleurs, en partant du point de vue de l'homme philosophe, si c'est l'homme qui est l'être, le monde étant à la limite les représentations de la conscience humaine, c'est l'homme qui est tout. Et dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu, de la même manière que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme, a priori, dans les postulats de la découverte du problème. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai dit tout à l'heure, que la perplexité propre est l'objet propre de la tradition de la Kabbalah, c'est essentiellement la question de l'existence du monde. Du monde comme relation entre Dieu et l'homme, d'une part, le courant de la prophétie, et d'autre part, comme relation entre l'homme et Dieu, le courant de la prière, comme nous l'avons vu précédemment. Eh bien, c'est ce qui va nous occuper dans les séances suivantes. Simplement, je dirais déjà aujourd'hui, pour terminer cette première partie, assez rapidement, qu'on trouve un parti pris de méthode dans la tradition de la Kabbalah, qui est la distinction radicale entre Dieu et ses attributs, entre Dieu et les médiations par lesquelles il se relie à l'homme. Le kabbaliste, en général, ne fait pas de théologie dans le sens classique. On ne parle pas de Dieu. Dieu en lui-même, tel qu'il est en lui-même, on n'en dit rien, sinon qu'il est. C'est la raison pour laquelle le terme habituel des auteurs de la Kabbalah, c'est le Ein Sof, terme sur lequel nous allons revenir dans les prochaines analyses, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire en français à la limite par l'infini, mais je voudrais plus l'expliquer en hébreu. Ein Sof, ça veut dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin à son être. Peut-être que le terme de la tradition exotérique le plus simple pour servir d'appui à la compréhension du terme de Ein Sof, c'est-à-dire Dieu en lui-même, c'est le mot de Bereshit, c'est le mot, pardon, de Reshit, le commencement. C'est-à-dire, si on arrive à percevoir intellectuellement l'idée d'une réalité dont tout l'être consiste à être commencement, alors on commence un peu à entrevoir la signification de ce que signifie ce terme des kabbalistes, le Ein Sof, ce qui, dans sa manière d'être, est perpétuellement commencement d'être. Il n'y a pas de Sof. Ein Sof, il n'y a pas de fin. Et c'est ce terme que les kabbalistes emploient pour désigner Dieu en lui-même, indépendamment de sa relation au monde. Donc de distinguer une fois pour toutes celui qui est le Ein Sof en lui-même et sa relation au monde. Et quand je dis au monde au singulier, c'est notre monde, celui de notre perception. Et la Kabbalah va nous dévoiler le monde des hiérarchies et des différentes médiations qu'il y a entre le Ein Sof et nous. C'est, je crois, un principe extrêmement important et qui nous permettra donc de distinguer mieux encore entre le courant philosophique à proprement parler, le courant théologique à proprement parler, et l'objet de la tradition de la Kabbalah dans le sens strict. Alors c'est ce que nous allons déjà retenir en préface de l'analyse de la fois suivante, je n'ai pas terminé avec l'exposé historique, c'est que la question qu'il y a à élucider, c'est comment un monde est-il possible ? Et j'aborde maintenant les différentes grandes étapes du dévoilement à ce sujet. Bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le premier niveau de la Kabbalah elle-même, c'était la prophétie elle-même. Et effectivement, nous trouvons, c'est une autre référence que je voulais vous donner, dans la Gemara, très souvent, le fait que les textes des prophètes sont nommés par le Talmud Kabbalah. Kabbalah, dans le sens habituel de tradition, mais le fait, comme nous l'avons élucidé tout à l'heure. Par exemple, dès les premières pages de la Maseret Baba Kama, nous avons cette expression qui revient très souvent dans la Gemara, « Dibre Torah, mi dibre Kabbalah, la yalfina ». Ça veut dire, on ne tire pas un enseignement concernant les commandements de la Torah des paroles des prophètes. « Dibre Torah, mi dibre Kabbalah, la yalfina ». Et ici, le mot de Kabbalah désigne les textes des prophètes. Je veux dire que pour les talmudistes, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Qu'est-ce que les talmudistes appelaient Kabbalah ? Les prophètes eux-mêmes. C'est ensuite que le terme de Kabbalah va désigner la perpétuation de la connaissance intime de la pensée prophétique dans la lignée ésotérique par rapport à la lignée exotérique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors donc, la première période, c'est la période des prophètes. Et cela va depuis Abraham jusqu'au dernier prophète, c'est-à-dire la fin du premier temple et le début du deuxième temple, la génération des fondateurs du Beit Sheni, du retour, au niveau de Ezra, Néhémie, Malachi, Mordechai, qui étaient les derniers des inspirés et des prophètes en particulier. Ensuite, nous avons une deuxième époque. C'est à cette époque, la figure principale qui apparaît, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a toute une controverse au sujet du fait de savoir si le livre du Zohar a été vraiment écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien si c'est bien postérieur, on s'est référé pour légitimiser au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une controverse que vous pouvez suivre chez les historiens. J'en dirai quelques mots pour l'éclairer quand même, peut-être tout de suite. D'après les historiens, ce que nous imputons à l'enseignement des Tanaïm, c'est-à-dire les disciples des prophètes, et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la mise par écrit au temps de la mise par écrit de la Mishnah, c'est-à-dire à la fin du temps des Tanaïm. Lui-même a vécu vers la fin du premier siècle de l'ère actuelle. Donc, c'est une sorte de mémoire qu'il y a encore du temps de la prophétie. Une sorte de capacité, à travers la chaîne initiatique de maître à élève, de se situer dans le monde comme les prophètes le voyaient, comme les prophètes le percevaient. C'est encore une description, une vision. Je parlerai beaucoup, parce que je vous le citerai beaucoup, du livre du Zohar, mais aujourd'hui je me bornais à le situer historiquement. D'après les historiens de la Kabbalah, et en particulier les historiens modernes, d'entre eux le plus considérable qui est Gershon Scholem, d'ailleurs je vous conseille de lire ses livres, qui sont du point de vue de l'érudition biographique et hagiographique, si j'ose dire, extrêmement considérable, et qui vous poseront les vrais problèmes traditionnels qu'il ne résout pas, de l'élucidation des contenus de la Kabbalah que lui ne résout pas. Alors ce seraient des Kabbalistes du XIIIe siècle. Je ne cite pas Moshe de Léon en particulier, celui-là ou un autre. Tout ça, ce sont pour nous de la tradition, ce sont des hypothèses d'historiens. Les livres d'histoire, c'est différent que la mémoire traditionnelle, même lorsque cela parle des mêmes contenus. Et en réalité, il y a une raison malgré tout, historique très importante. C'est que cette époque, c'est l'apogée de l'époque de la philosophie religieuse. Et c'est pour lutter contre les dangers de la philosophie religieuse que les kabbalistes ont décidé de mettre par écrit et de dévoiler ces enseignements qu'ils recevaient traditionnellement depuis le temps des Tanaïm dans la lignée ésotérique. C'est le premier phénomène caractérisable de mise par écrit d'un enseignement qui était destiné à rester oral. Et pourquoi était-il destiné à rester oral? Ça, vous les découvrirez en même temps que vous découvrirez les contenus. Mais de toutes les façons, il y a un danger spirituel, si on n'est pas suffisamment préparé, à parler du monde caché tel qu'il est en réalité, alors qu'on ne dispose de diagnostics de perception que du monde dévoilé. Vous comprenez quel pouvait être le danger. Mais surtout, c'est que c'était le temps de l'exil, qui a commencé avec le temps de la fin de la prophétie. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière pour ajouter deux ou trois compléments à l'analyse précédente. J'avais fait allusion aux raisons, aux causes de l'arrêt de la prophétie. Ceci doit être élucidé pour lui-même. Il y a deux raisons principales. C'est d'abord la destruction de la nation hébraïque et ensuite la dispersion de la nation, des rescapés de la nation hébraïque. Je vais vous donner simplement une image très rapidement pour situer ce problème. Tant que le poste récepteur de cette émission en direct dont je parlais était là, l'émission était entendue. Le poste a été détruit. Ça ne signifie pas que l'émission ne continue pas. Et lorsque les conditions de la captation sont réunies, on capte en quoi que ce soit. C'est le phénomène de la Kabbalah. Je pense que c'est suffisamment clair. Mais il est indéniable qu'à la fin du premier temple, on est obligé de prendre acte que la nation hébraïque, à travers ses 12 tribus, est détruite. Il y a des rescapés, les Judéens. Et vous comprenez pourquoi. Au temps du premier temple, il y avait des prophètes. Au temps du deuxième temple, il n'y a plus que des kabbalistes. La prophétie comme telle a cessé parce que la nation qui était l'interlocuteur de la parole prophétique a été détruite. Il ne restait que des communautés d'individus. Mais la nation comme telle est détruite, il ne reste que les Judéens, c'est-à-dire les rescapés des Hébreux. Chez les Judéens, il y avait des hommes qui, à l'échelle individuelle, étaient capables d'être prophètes. On a cité Hillel, on pourrait citer Rabbi Shimon Bar Yochai, on pourrait les citer tous. Mais ils ne l'ont pas été au niveau des prophètes de la Bible, parce que la nation hébraïque duquel ils devaient être prophètes n'était plus là. Il n'y avait plus que les communautés juives. Vous comprenez la différence d'envergure, de dimension d'identité de l'interlocuteur de la parole prophétique. La deuxième raison, c'est la dispersion de ces rescapés de la nation hébraïque eux-mêmes dans la grande diaspora judéenne puis juive. Et cela, ça se réfère au fait que cette écoute en direct a un lieu privilégié qui est Eretz Israël. Lorsque le prophète est en dehors d'Eretz Israël, il ne prophétise que par son lien à Eretz Israël. Mais le phénomène de la prophétie ne concerne qu'Eretz Israël. C'est-à-dire, cette capacité prophétique, elle est le propre de l'identité hébraïque, elle a son terroir propre, si j'ose dire, de la même manière que toute capacité culturelle a son terroir propre, quelle que soit sa spécificité. Ben, il suffit de rassembler dans la même perception ces différents éléments, le temps de l'arrêt de la prophétie, le temps de la destruction de la nation hébraïque, le temps de la dispersion de la nation hébraïque, pour s'apercevoir qu'il y a des liens très profonds entre ces différents événements. Et corollairement, ce que nous venons d'apprendre immédiatement, c'est que ce caractère secret de la tradition kabbaliste venait du fait que les Juifs étaient en exil. La parole elle-même était en exil, mais ça, ce n'est qu'une figure. Et par conséquent qu'il était dangereux de dire le dévoilement de façon trop directe. Cependant, les kabbalistes ont jugé qu'à partir du moment où une certaine forme de la théologie, non pas la tradition exotérique de la parole des prophètes, le commentaire de la Bible, ce que la tradition dit, mais la théologie philosophique, la philosophie religieuse, avait commencé à se répandre et à devenir dominante, que pour lutter contre l'influence de la philosophie religieuse du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, les kabbalistes ont décidé de mettre par écrit leurs enseignements. Sous forme plus ou moins voilée, plus ou moins cachée, mais dès qu'on édite un livre, on sait à l'avance que ça sera entre les mains du grand public. C'est-à-dire de publier ce qui n'était jusque-là que réservé à des lignées initiatiques bien particulières. Est-ce que c'est suffisamment clair ? C'est ce fait-là duquel les historiens se sont emparés pour dire que les livres de la Kabbale, les premiers livres de la Kabbale, le Zohar ou le Sefer HaBahir de Rabbi Nachman Yohanan Hakana, qui est de la même époque des Tanaïm, ont été écrits à cette époque. Le contenu de ces livres vient de l'enseignement des Tanaïm, mais il était oral jusque-là, et il commence à être diffusé en ce temps-là pour lutter contre l'influence de la philosophie religieuse. Et là, ça c'est la deuxième période. C'est contemporaine à cette deuxième période dans le monde de l'universel humain, vous avez l'expérience mystique. C'est qui est la rémanence du temps de la mythologie dans les autres traditions. Ensuite, nous avons une troisième période tout à fait différente, qui est la période qu'on appelle celle de la Kabbalah sfaradite. Et qui, je ne citerai que trois ou quatre noms, peut-être trois noms pour le moment, un des principaux maîtres dans le début de cette période et qui est au XIIIe siècle, c'est Nachmanide. Je vais vous donner les dates, 1194-1270, c'est-à-dire ça chevauche un peu sur le 12e et le 13e siècle, Narvanil, Rabbi Moshe Bar Nachman, qui est un des principaux maîtres de ce que je vais définir tout à l'heure, de ce qu'on appelle la Kabbalah Sfaradite. Il y en a eu avant lui, il y en a eu après lui, mais c'est une des grandes figures. Et aussi, je citerai Rabbi Yosef Ibn Gikatilia, dont le principal ouvrage, c'est le Sha'ar Le'ora, qui est aussi un de nos maîtres contemporains, je veux dire, tant Nachmanide que lui, que Rabbi Yosef Ibn Gikatilia, nous parle aujourd'hui comme si nous étions de leur temps, c'est eux qui sont du nôtre. Enfin, les deux choses sont vraies en vérité. Et lui est un peu postérieur, 1248-1325. Et cette période s'achève, si j'ose dire, dans une œuvre presque achevée, presque parfaite dans sa formulation, qui est l'œuvre de Rabbi Moshe Cordovero, 16e-17e siècle, et 1562-1625 plus exactement, vous voyez que j'ai fait des chevrets baïtes. Et cette Kabbalah Sfaradite a pour véhicule d'expression le discours philosophique, ou je vais dire plus exactement, qu'elle correspond à l'exploration philosophique du monde de la vérité dans le monde extérieur. C'est-à-dire, si nous suivons ce parallèle, que se passe-t-il dans le monde extérieur, corollairement aux grandes étapes du dévoilement de la Kabbalah dans la tradition juive, ou inversement, comment la tradition des prophètes va se formuler corollairement et parallèlement au développement de la pensée générale dans le monde extérieur, alors nous trouvons, premièrement, première étape, au temps de la mythologie, c'est la prophétie. Au temps de la prophétie, c'est la mythologie. Puis, au temps des Tanaïm, au temps de la littérature du Zohar, et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire où c'est encore de l'ordre de la vision, de la description, on fait voir ce dont on parle. On utilisera plus, en termes occidentaux, des symboles, je dirais ça plutôt en hébreu, des smalim, que des moussagim, que des concepts. Et en ce temps-là, c'est le temps de la mystique, ou de la gnose, dans les autres traditions. Puis vient le temps de l'exploration métaphysique, de l'exploration philosophique, avec le moyen de l'intelligence rationnelle. Le discours kabbaliste qui correspond à ce temps-là, c'est celui de la Kabbalah Sfaradite. Avant d'aller plus loin, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé du Hari, qui devrait se ranger dans cette période. Mais je vous rappelle les deux grands noms du mythe, Nachmanide et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Du Hari, je vais parler tout à l'heure. C'est-à-dire, en ce temps-là, si vous voulez, la force de l'esprit qui est utilisée pour l'exposé du discours, c'est la raison, c'est l'intelligence. Il faut se mesurer ou être au niveau de l'exploration de la pensée dans le monde extérieur par l'outil métaphysique. Eh bien, là apparaît, un peu avant le temps de la fin, ça se chevauche un peu, le Moshe Cordovero a connu le Hari, il en a parlé d'ailleurs, je crois que si je me souviens bien, il a fait le SP dans son enterrement, mais il était très jeune. Et le Hari est une charnière de l'époque suivante. Et à chacune de ces charnières de l'époque suivante, nous avons un phénomène de visionnaire, dans le sens strict. C'est-à-dire, avec le Hari, nous avons de nouveau un retour à la capacité du temps du Zohar, à la capacité du temps des Tanaïm. De nouveau, c'est le langage de la description par la vision. Il y a un renouvellement, plus qu'un renouvellement, un ressourcement de la parole de la Kabbalah. Parce que je vois qu'il commence à faire très chaud, puisqu'on est enfermé des deux côtés. Je vais être un peu rapide. Peut-être vous pouvez ouvrir là-bas d'ailleurs, si c'est possible d'ouvrir là-bas. Oui. Il y a eu des temps d'apogée, des temps d'éclat, des temps de dévoilement. Et puis il y a eu des retombées dans l'incognito. Il y a eu des temps d'occultation. Je vous parle d'une période de plus de 2000 ans. Et cela est jalonné par des soleils, si j'ose dire, qui donnent leur lumière. Et très rapidement, lorsque les lignées s'éteignent, lorsqu'on n'a plus le moyen de diagnostiquer oralement, de façon vivante, par la relation avec celui qui avait entendu de celui qui a entendu, si j'ose dire, les textes deviennent hermétiques. Quels que soient, et surtout lorsqu'ils sont faciles à lire, comme j'avais dit tout au début. Alors, le Hari a renouvelé le décryptement de ce dont il était parlé, c'est-à-dire la description des mondes qui sont la médiation entre le Ein Sof et l'homme en tant que créature, ce qui fait l'objet de notre étude d'ailleurs. Et là, il y a un moment très important et qui montre que, d'autre part, cette période de la Kabbalah sfaradite ne s'achève pas. De la même manière qu'on continue à étudier les prophètes, qu'on continue à étudier les Talmudis, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, on continue à étudier les Sfaradim, les Kabbalistes de la Kabbalah sfaradite. Je veux dire que ces Kabbalistes eux-mêmes ne viennent pas se substituer à la période précédente, mais ils viennent en développement, avec d'ailleurs diminution d'envergure, bien évidemment. Un Tana était moins grand qu'un prophète, et un Kabbaliste de l'école de Safed était moins grand qu'un Tana, qui était moins, sauf les grands maîtres, qu'on appelait d'ailleurs Tanaïm, qu'on appelait Nabi, qu'on appelait prophète. Et il y a donc un développement. Ce qui change, c'est le véhicule d'expression. En langage de kabbaliste, c'est le levouche, le revêtement. Ce qui change, c'est le véhicule d'expression. Le véhicule d'expression des prophètes, c'est la parole prophétique. Celui des Tanaïm, c'est le style du Zohar. Celui de la Kabbalah sfaradite était celui de l'exposé philosophique. Ou du moins de l'exposé qui tient compte des questions que pose le philosophe. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, parce que ça reste un peu formel pour le moment. Et là, le Hari a renouvelé, a ressuscité ce que j'ai appelé la Kabbalah sfaradite. Je reviens un peu en arrière, ce qui s'est passé au XIIIe siècle. Dévoilement par écrit de ses contenus pour pouvoir s'opposer à l'influence, nous dirions aujourd'hui universitaire, disons, de la pensée philosophique au XIIIe siècle. Or, il suffit de faire une remarque très simple. Aucune des communautés juives, que ce soit dans le monde ashkénaze, dans le monde sfarad ou dans les autres rites, aucune des communautés n'a jamais construit le monde de sa prière autour des données données par les théologiens. Mais toute la structure du monde de la prière est autour de l'enseignement des kabbalistes. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est-à-dire que dans ce conflit entre les philosophes de la religion et les kabbalistes eux-mêmes, ce sont les kabbalistes qui ont triomphé parce que les juifs sont kabbalistes. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Alors que les universitaires sont philosophes. Et finalement, les théologiens ont triomphé à l'université. Mais quand on commence à faire de la Kabbalah à l'université, de ça je parlerai un autre jour. Mais les juifs, dans leur sentiment profond de la relation à la parole de la Bible, se sont mieux retrouvés dans le discours des kabbalistes que dans le discours des théologiens. Je crois que c'est important à noter. Ensuite, l'humanité en général va découvrir et va particulariser un objet de sa perplexité dans la recherche de la vérité de la vie spirituelle qu'on appelle aujourd'hui, de façon très générale, le monde de la psychologie, le monde de la vie intérieure. Après la métaphysique, c'est le temps de la psychologie qui commence au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, mais en fait, ça commence déjà au XVIIe siècle. Je crois qu'on peut dater dans le monde extérieur cette particularisation d'un morceau de la philosophie qui devient la psychologie et toutes les dimensions annexes, la découverte du phénomène de la vie intérieure en tant que telle, au-delà et plus profond du fait intellectuel. Le mot de psychologie dans ce sens-là a été employé pour la première fois par Mène de Biran, si je me souviens bien, en tout cas en Europe, et corollairement va apparaître le chassidisme. Alors là, nous sommes, 1, 2, 3, à la quatrième époque. La grande charnière, c'est le Baal Shem Tov. Mais pourquoi dans le programme, je vous ai mis ces grands noms? Les prophètes, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va initier une école de kabbalistes qui deviendra le chassidisme. Encore une fois, aujourd'hui, pas tous les chassidismes sont forcément kabbalistes, mais leurs maîtres sont tous des kabbalistes, leurs grands maîtres, qui va reformuler le contenu de cette révélation prophétique avec pour objet d'éclairer ce monde de la vie intérieure. Et là aussi, les chassidim ne vont pas se couper de la Kabbalah sfaradite précédente, qui ne va pas se couper du Zohar, etc. Vous comprenez comment cela fonctionne. C'est-à-dire, un lébouche supplémentaire va s'exprimer. Je crois que, du point de vue, en tout cas, de l'enseignement de la Kabbalah, ce temps du chassidisme a été parachevé un peu à la manière dont Rabbi Moshe Cordovero a parachevé, au niveau littéraire, la Kabbalah sfaradite, par un grand maître kabbaliste contemporain qui vient des Hassidim et qui est le Rav Ashlag. Contemporain, il est mort il y a une quarantaine d'années à peu près, mais enfin c'est pratiquement, peut-être même moins. Attendez, duquel Rav Ashlag vous parlez? Du père, du Soulam. Okay. Il y a combien de temps?
Au début des années 50.
Au début des années 50, c'est tout.
Mais il était en survivant à la guerre d'indépendance.
Nahon. Alors, très contemporain. J'ai été l'élève de son fils, mais enfin, c'est du père que je parle. Et lui a donné une forme systématique à cette formulation de la Kabbalah à la manière de la Chassidut, encore une fois, très succinctement pour notre sujet, c'est-à-dire au niveau de l'exploration du monde de la vie intérieure. Et puis, nous abordons la dernière période, avec la dernière grande charnière, de notre temps, après avoir exploré ce monde de la mythologie, puis la métaphysique, puis la psychologie, tout se passe comme si la pensée humaine s'est mise à l'indice de la découverte du phénomène étudié par les sciences de la sociologie. Et à ce niveau-là, c'est-à-dire la découverte du fait l'homme au niveau de la société, au niveau de la collectivité et donc au niveau de l'universel, le reformulateur du contenu de cette Kabbalah qui commence à Abraham Avinu, à travers la Torah de Moshe Rabbeinu, les prophètes, les Tanaïm, les kabbalistes Sfarad, les Chassidim, c'est le Rav Kook. Puisque c'est corollairement à l'apparition de l'État d'Israël, de la nation d'Israël comme telle, que cette reformulation des contenus de la vérité prophétique va être donnée à l'échelle des problèmes de la société comme telle. Voilà donc très, très schématiquement et très brièvement brossé le tableau que je voulais vous proposer. J'ai eu cette impertinence d'enfermer en quatre phrases, je ne sais pas, six, sept, une période de 2600 ans de tradition, mais je vais très brièvement, pour conclure, en faire le bilan. De toute l'exploration des mondes intermédiaires que nous allons découvrir, nommer, analyser, disséquer à partir des séances prochaines, c'est une direction principale que la Kabbalah traditionnelle a retenue, la science de la prière. Nous en avons eu certains éléments dans les premières analyses. L'objet de la Kabbalah en tant que pensée théorique, c'est l'élucidation de l'existence du monde. Et puis, troisièmement, le fait que le contenu de la parole prophétique donné centralement à Israël va être formulé dans les grandes époques successives par rapport ou parallèlement. Je ne crois pas qu'il y ait une relation de cause à effet, mais je crois qu'il y a un plan général de l'histoire, un projet général de l'histoire humaine qui est universel, qui est global et qui, comme tel, concerne et l'humanité en général et Israël en particulier, à chaque époque, au même niveau. Et donc, il se formule à propos des différents véhicules d'expression de la recherche de la sagesse dans l'humanité en général. C'est pourquoi, pour pouvoir étudier les contenus de l'œuvre du Rav Kook, il faut bien évidemment avoir déjà une certaine idée des catégories du langage de la Kabbalah par elle-même. Et pour le moment, par postulat, nous parlerons surtout de la Kabbalah en tant que langage, mais au fur et à mesure de l'étude, j'espère que s'éclaireront un certain nombre d'autres perspectives. Alors je vous énumère les différentes séances que nous aurons à suivre. Je ne sais pas du tout, c'est la première fois que nous nous attachons à ce genre d'études, si j'aurai le temps chaque fois d'étudier complètement le sujet annoncé, peut-être on débordera, je ne sais pas comment, enfin la prochaine séance va concerner essentiellement le problème de la création, et on étudiera deux notions principalement, celle du Tzimtzum et celle de Shvirat HaKelim. Ça c'est le mardi 13 novembre, ensuite le mardi 27 novembre, c'est donc pas le mardi suivant, mais le mardi en 15, après il y aura une interruption, le problème du mal. Ensuite, le mardi 4 décembre, la restauration des mondes, le problème du Tikkun. Et enfin, la dernière séance qui aura lieu le 11 décembre sera une séance de récapitulation avec un échange de mise au point. Mais pour ceux qui ne seraient pas déjà asphyxiés, s'il y a encore une ou deux questions, je vais bien essayer d'y répondre ce soir déjà. Non, mais je crois qu'on ne peut pas, il y a pas assez de silence. Écoutez, alors, je vous demanderai quand même un peu de patience. Je pense que...